Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes à Andalos sur Divergence FM 93.9. Aujourd'hui donc à la réalisation technique, le sympathique, le magique Manuel Plaza, mais Manu pour toutes les douceurs qui nous écoutent. Et chaque samedi, hein, de 10h30 jusqu'aux informations de RFI, Modesto Jamal pour vous servir. Alors aujourd'hui, donc, un thème intéressant et surtout un invité donc, qui connaît Divergence. Alors, j'ai le plaisir de recevoir donc le philosophe Salim Mokaddem. Bonjour Salim.
Bonjour.
Alors, Salim est professeur de philosophie à l'école interne de l'UFM, de l'Université Montpellier II, membre du groupe Société Religion Laïcité de l'école pratique des hautes études, alors 5e section à la Sorbonne. Et puis il est surtout auteur d'un essai sur Foucault intitulé « Une vie philosophique » paru aux éditions TTT en rupture de stock. Et on peut toujours le commander, Salim.
Oui, on peut soit le commander directement auprès de l'éditeur, soit en s'adressant à Divergence ou à une bonne librairie. Il y a une réédition qui est prévue de cet essai. C'est les éditions TTT.
La dernière fois qu'on t'a reçu à Divergence, d'abord c'était pendant la campagne de financement de Divergence FM, c'était le mois de juin. Hein. Et voilà, depuis, il s'est passé quand même pas mal de choses. Que s'est-il passé depuis, Salim ?
Dans ma vie personnelle, beaucoup de choses, comme d'habitude. Dans ma vie intellectuelle, encore plus. Et dans la vie sociale et politique, je pense que nous vivons une époque qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui la crise, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, et notamment la crise d'identité, mais d'identité beaucoup plus pour ceux qui parlent de l'identité que pour ceux qui vivent, car pour eux, l'identité est un concept fallacieux, et qui est en fait très pragmatique. On aura le temps d'en reparler. Mais surtout, de manière un peu plus sérieuse et objective, il y a eu un colloque interdisciplinaire à Montpellier, interdisciplinaire et international, organisé conjointement avec les trois universités, où j'étais dans le comité scientifique, et nous avons pu faire venir des intellectuels chinois, des intellectuels indiennes, des juristes, des sociologues, des Tunisiens, des Nigériens, et pour parler de la question du sens des droits de l'homme aujourd'hui, pertinence et impertinence des droits de l'homme. Et la bonne idée du directeur des relations internationales de l'université Paul Valéry, c'était en même temps, ainsi que du pôle européen que je tiens à saluer ici, c'était aussi de faire un campus européen d'été, donc de faire venir des étudiants un peu du monde entier, des doctorants, sur le modèle du séminaire, et de travailler sur ces thèmes-là.
D'accord. Alors, bien sûr, donc on en parlera aussi d'autres choses. Là, tu as participé aussi dernièrement. Il y a aussi une mission ou un travail à l'UNESCO. Alors, de quoi s'agit-il ?
Oui. Alors, je tiens à dire pour le colloque sur les droits de l'homme que les actes vont bientôt sortir, mais je pense que nous en reparlerons ultérieurement. Alors, l'UNESCO, comme chaque année, fait une journée mondiale de la philosophie, c'est-à-dire qu'accompagne cette journée mondiale de la philosophie. Et depuis très longtemps, une des missions de l'UNESCO était de développer l'éducation et de développer aussi la philosophie comme pratique sociale, pas simplement comme pratique académique ou universitaire. C'est-à-dire que on s'est aperçu que la philosophie a fait aussi des fonctions de pacification, on dira de sublimation des pulsions, c'est-à-dire qu'elle a un rôle politique énorme. Alors on bien évidemment, il y a une philosophie politique, il y a une philosophie du politique, une philosophie de la politique, mais on ne s'était jamais interrogé sur la question de savoir s'il y avait une politique de la philosophie, c'est-à-dire que si la philosophie proposait quels que soient d'une certaine manière ces systèmes ou ces créations dans le temps, proposer un type de rapport humain qui soit marqué par une invention de rapport à l'autre, qui ne soit pas un rapport de domination ou un rapport inégalitaire. On peut citer le cas emblématique de Socrate, qui interroge par exemple la légitimité du droit politique religieux, qui interroge la légitimité du droit politique tout court, pour savoir s'il n'y a pas un autre type de vie philosophique, de légitimité philosophique, qui ne soit pas juridico-administratif. Et l'UNESCO a décidé mondialement de faciliter et de se mettre au service des nouvelles pratiques de philosophie dans la cité. Bon, on en connaît certaines, le café philosophique, le débat à visée argumentaire, comme dirait Michel Tozzi, qui est professeur émérite ici à l'université en sciences de l'éducation et qui a systématiser ce concept. Il y en a d'autres qui seraient plus dans une démarche un peu participative. Enfin, peu importe les écoles, l'idée, c'est dans le fond que la philosophie ne s'adresse pas uniquement aux philosophes et que chacun a, d'une certaine manière, à y apprendre parce qu'elle instituerait un type de rapport au langage, à l'affect, au corps, au désir, à la cité, qui ne soit pas basé sur le rapport de force ou le rapport de destruction ou le rapport inégalitaire d'imposition, qu'il soit d'autorité, de droit, d'aînesse, d'héritage. Et cela, je trouve que c'est très important parce que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans tous les pans de la société. Aussi bien, ce qu'on a appelé à un moment donné démocratie participative, ce qu'on appelle l'altermondialisme, ce qui est le rebondissement aujourd'hui du monde associatif, etc. Ça participe de ce même désir, de cette même impulsion qui est, il y a eu les journées citoyennes par exemple hier à La Mosson, qui est de vouloir d'une certaine manière s'emparer de son destin, de ne plus le subir et surtout de le faire en comprenant et en forgeant des outils qui ne soient pas des outils importés ou des outils, si vous voulez, aliénés, des outils qui soient tout faits, des maquettes idéologiques, des valises de prêt-à-penser, mais qui soient produits par les acteurs de ceux qui subissent les théories qui sont produites. Et ça, c'est une spécificité, c'est ce que Foucault appelait l'intellectuel spécifique, mais c'est une spécificité qui est très intéressante et que l'UNESCO a bien senti, d'une certaine manière, qui était une demande mondiale.
Salim.
Demande mondiale de sens et d'horizon de sens, oui.
Nous aurons le temps, on va juste faire une petite pause musicale et on va aller donc au Mali, pays cher donc à notre Manuel Plaza, qui est le responsable de la programmation musicale et divergence et qui a séjourné donc déjà donc à Bamako et à Mali dans le cadre du partenariat entre Radio Divergence et Radio Tabalé à Bamako, et nous allons écouter donc ce duo magique Amadou et Mariam Afou.
Madre.
toujours à Divergence FM 93.9 et à l'émission Andalous avec Modesto Jamal au micro et le grand Manu donc à la réalisation technique. Avec nous, Salim Mokaddem, le philosophe qui est un habitué donc de Divergence FM. J'ai dit, Salim, que depuis la campagne de financement de Divergence FM, qui a eu vraiment un écho plus que favorable, et puis ça nous permet un peu donc de montrer donc ce qu'on sait faire. Et c'est vrai que Divergence FM, c'est la seule radio qui a les moyens, à la fois techniques et à la fois, j'allais dire, les compétences pour aller directement voir le public là où il se trouve. Et ça, je pense, il n'y a que Divergence FM qui le fait. Salim, au congrès donc d'Arles, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est un...
que, dont le titre international et multidisciplinaire. Et puis, ça a apporté surtout donc, les droits de l'homme. Et puis, il y a aussi la violence. C'est vrai, en ce moment... hein, il y a pas mal de recherches qui se font par-ci par-là sur la violence. Je sais qu'il y a certains collèges de Montpellier qui sont sollicités par un travail sur la violence verbale. Donc il y a des chercheurs de l'université Paul Valéry qui sont donc impliqués là-dedans, hein, avec les profs concernés donc des collèges et les élèves travaillaient sur cette violence verbale. Alors juste une question, Salim. On en voit des projets, on en voit la violence un peu partout. C'est vrai, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est médiatisé, hein, ben il y a des colloques qui prolifèrent. Quel est le vrai et quel est le faux de tout ça, Salim ?
Bon, c'est une bonne question et c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'elle supposerait d'avoir une vue totale, une vue synoptique, une vue générique de tout ce qui se produit. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, on a tendance à médiatiser les faits de violence, à les exagérer, voire même à les utiliser, à les instrumentaliser dans des visées, dans des intentions qui sont pas toujours très claires et qui sont très violentes dans leur finalité. Mais disons que ce colloque d'Arles avait la particularité, très modestement, de vouloir faire un état des lieux, des discours et des constatations sur la violence. Donc il y avait des magistrats, il y avait des juges pour enfants, il y avait des psychanalystes, il y avait des sociologues, il y avait des enseignants, il y avait des éducateurs... des sociologues venus de tous horizons pour faire un état des lieux. Par exemple, il y avait des maîtres de conférences en sociologie qui venaient du Maghreb pour voir est-ce que les phénomènes de violence dans les villes, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, sont similaires et analogues à ceux dont on parle dans les banlieues aujourd'hui. Enfin, déjà, le mettre en rapport les choses, c'est déjà vous voyez, connoté, surdéterminé. Mais disons que, pour répondre à la question, il y a effectivement une façon de parler ou de mettre en image la violence qui est déjà très violente en soi et qui est un refus de la pensée en tant que telle. Et donc de faire un état des lieux, des discours et des constatations de la violence, ça permet de faire une classification ou un repérage, très sauvage bien sûr, mais d'avoir des vues et des représentations qui viennent de différents champs. Hein. Un magistrat ne dira pas la même chose qu'un surveillant de prison, parce qu'il y avait beaucoup aussi de surveillants de prison, ou ne dira pas la même chose qu'un éducateur de jeunes enfants, etc., etc. Mais on constate ceci. C'est qu'il y a un désarroi en ce qui concerne d'une certaine façon, alors c'est mon interprétation, c'est là où mon intervention portait, sur d'une certaine manière une non prise en compte de l'affect et du corps. Et donc du coup, ce qui est vécu comme de la violence est en fait une mauvaise interprétation des signes sociaux inventés par exemple par les adolescents, hein. Hier j'étais à une soirée par exemple rap R&B etc., et je regardais les vestimentations, les looks, les apparences, les discours. D'emblée, si on juge avec des catégories académiques, on a l'impression d'être dans un repère de bandits, de gangsters, de Black Panther, etc. Mais pas du tout, ce sont à la limite c'est presque très romantique, parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'apparence extérieure que dans l'intentionnalité de la violence. Il y a plus de violence chez une bande d'étudiants d'HEC ou de fac de droit qui en réalité sont en train de préparer leur carrière de manière très éhontée. Il y a plus de violence par exemple dans le fait que le fils de monsieur Sarkozy dit qu'il est discriminé dans ces propos-là. Il y a plus de violence que dans une bande de jeunes qui traînent place de la Comédie pour aller saluer un match de foot un samedi soir. Je veux dire par là que d'une certaine manière, effectivement, il y a une indexation de la violence qui correspond à une idéologisation des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui vit l'exclusion, mais pas comme elle le vivait dans les années 60, 70 ou 80. Aujourd'hui, c'est par la présentation de la forme la plus exagérée de la non-intrusion dans le langage officiel. C'est-à-dire qu'on dénie un droit de parole à ceux qu'on considère comme violents, a priori, avant même de les avoir entendus. Et c'est assez fascinant. Et ma thèse est la suivante, c'est que tout simplement, ça se passe plus du côté du langage. C'est pour ça que les rappeurs, les slameurs violentent un peu le rapport au symbolique, parce qu'ils savent très bien que tout est déjà ficelé dans le langage. Il y a un rapport de pouvoir dans le langage. Il y a celui qui sait parler, il y a celui qui sait prendre la parole, il y a celui qui a droit à prendre la parole, il y a celui qui l'a de fait, et celui qui ne l'a pas, etc. Enfin, il y a tout un jeu qu'on sait bien analyser depuis Bourdieu, depuis Foucault, etc. Il y a un rapport de pouvoir dans le langage, et la destitution de ce rapport de pouvoir passe par une réinvention d'un mode tout à fait particulier qui peut être à la fois phonétique, qui peut être à la fois sémantique, qui peut être à la fois syntaxique. C'est-à-dire que, bon, les spécialistes diraient que les performatifs du langage sont en train de changer. C'est-à-dire que dans le fond, ce n'est plus selon la forme convenue du sens commun, etc. Mais le langage vise à introduire des éléments, par exemple, de langue arabe, de langue créole, de langue espagnole, de langue gitane, pour pouvoir créer un mode de communication qui est un mode d'existence ou d'autonomisation pour une partie de la population qui ne trouve pas à s'exprimer dans la Star Academy ou dans les formes convenues de la culture, même la plus
dans les médias tout court.
Et dans les médias tout court, bien évidemment. Sauf, bien sûr, à Divergence, où on accepte que, par exemple, je puisse parler.
Voilà,
donc je remercie Divergence de m'accueillir ce matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la violence est très insidieuse. Elle n'est pas dans l'image qu'on montre, elle est dans l'intention qui dispose cette image pour produire des affects de peur. Et aujourd'hui, la peur est l'affect politique le plus répandu. C'est-à-dire qu'on joue sur une disposition fondamentale de l'être humain, qui est l'angoisse. Le mode d'être dans la vie, c'est l'angoisse. Et l'angoisse, elle est insupportable. Mais en même temps, elle est ce qui définit l'être humain par rapport à l'animal ou à l'objet. Et donc, cette angoisse, on a tendance à vouloir la combler et à lui donner des objets de substitution. Alors, on dit, voilà, les dieux ont servi à ça à un moment donné, à protéger l'angoisse. Ensuite, ça a été l'amour, la littérature. Ce sont tout ça des procédés tout à fait nobles, hein, au demeurant, très cathartiques. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de désublimation de l'angoisse qui est, d'une certaine manière, réinvesti par des forces politiciennes qui présentent des individus comme des boucs émissaires, procédé très classique qu'on a connu dans l'histoire, mais là, avec cette idée, dans le fond, que tout le monde peut devenir le barbare, à n'importe quel moment, aussi bien l'étranger venu du Sud que celui du Nord qui peut être destitué en tant que classe moyenne. On n'a qu'à voir aux États-Unis les effets de l'effondrement financier qui a déstabilisé l'idée que la classe moyenne était en ascension sociale. Et donc, du coup, tout le monde peut être, du jour au lendemain, considéré soit comme terroriste, soit comme barbare, soit comme sauvage, soit comme étranger, etc. Il y a donc une espèce de contamination pathétique, c'est-à-dire contamination sensible par la sensibilité, qui est produite par un dispositif d'imagerie industriellement produite et distribuée par les canaux des médias qui ont une fonction, une double fonction. Premièrement, faire tenir les populations dans la tranquillité et deuxièmement, les obliger à consommer selon les normes instituées, banalisées, reconnues d'une consommation qui serait sécuritaire, providente et bien sûr, tout cela est fait parce que nous le valons bien et qu'il faut nous protéger dans un espace de sécurisation totale de la société.
Il y a des expressions d'emblée, elles paraissent différentes, ou bien au moins, donc, j'allais dire éloignées. Alors, on parle de violence, on parle de sécurité, et tout d'un coup, on parle d'identité nationale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?
Alors, il y a deux choses de commun. D'abord, il y a l'absence d'idées de partis politiques qui réchauffent de la vieille soupe, un vieux brouet, au moment des élections pour reprendre, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné les sociologues, la lepénisation des esprits, pour reprendre un discours xénophobe qui est hanté dans la réalité française et qui est, pour faire vite, qui est un héritage à la fois de Vichy, de la collaboration, des guerres coloniales. Et bon, c'est toujours présent, ça, qu'on le veuille ou non. Ça, à la limite, À la limite, ça, ça mange pas de pain, ça fait partie des conflits habituels dans toutes les sociétés. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre, de plus important. Et c'est ça sur lequel il faut pointer l'esprit si on veut véritablement comprendre l'époque. C'est que, bon, nous sommes dans un espace mondialisé. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, le BRIC, le Brésil, l'Inde, la Chine, sont un espace économique dynamique, intensif, productif, consommant et intelligent. Par exemple, au moment où je vous parle, à Shanghai, à Pékin, il y a des départements de philosophie qui ont mobilisé des intellectuels pour rétablir le confucianisme, parce qu'ils sont aperçus que le confucianisme permettait une plus grande ouverture au libéralisme que la pensée traditionnelle du grand timonier Mao et de ses prédécesseurs. Donc ça travaille, ça pense, ça produit. Ça produit et en même temps, il y a les moyens de produire. Il y a un peu cet analogue, un peu ce qui s'est passé dans les années 60 en Europe, avec les effets du plan Marshall. On crée des postes, etc. Alors, d'aucuns disent que ça ne va pas durer très longtemps. On ne sait pas, je ne suis pas un économiste, un spécialiste de la chose géopolitique. Mais toujours est-il que les universitaires invitent beaucoup, ils travaillent beaucoup, ils produisent beaucoup. Et donc, d'une certaine manière, il y a une dépossession traditionnelle. Il y a une crise narcissique de l'identité européenne dans ce monde qu'elle reconnaît comme mondialisé, mais qu'elle a du mal à accepter du point de vue de ses concepts, ses catégories, puis de ses vieux réflexes traditionnels. Donc il y a ce premier point qui me semble très important, à savoir l'habituation à l'hybridation comme mode de vie à l'époque de la mondialisation. Puis deuxième point, pour revenir à la société dans laquelle nous sommes, c'est que tout simplement les créateurs aujourd'hui, ils sont plus, ils sortent plus. Il faut regarder ce qui se passe en musique, ils sortent plus des grandes écoles. Ils sortent plus de Normale Sup, de l'ENA, etc. Le patronat français a été totalement improductif ces derniers temps. Il a vécu sous budgétisation, et d'ailleurs c'est pour ça que, en partie, Sarkozy était élu, c'est pour ça que l'EHPAD était très intéressant, parce que ça permettait d'avoir accès à des budgets, à des entreprises qui auraient permis des financements de personnes qui voudraient partir en campagne électorale. Donc quand on en arrive là, à ce point, si vous voulez, de peur et oui, appelons un chat, de corruption, c'est que quelque part, ça se passe ailleurs, et ça se passe où ? Ben la créativité, par exemple, dans le domaine pédagogique, tout le monde le sait, ça s'est passé dans les banlieues, dans ce qu'on a appelé avant les ZEP, qu'on appelle aujourd'hui les REP. C'est-à-dire que c'est là où on a inventé, par exemple, des pédagogies différenciées, du travail en atelier, etc. On a, chose que vous pouvez parler mieux que moi, d'escalité, mais c'est pareil en peinture, c'est pareil en mode, c'est pareil en musique. Ce qui se fait en musique actuellement, c'est assez étonnant. Enfin, les textes de certains rappeurs, même le jazz. Enfin, il y a une stérilité du confort. Et actuellement, d'une certaine manière, ceux qui sont installés dans le confort, et qui sont à la tête en même temps de toutes les institutions, enfin, il y a quand même un scandale, peut-être que vous en avez parlé, mais un scandale sur la nomination d'un patron de CDN à Montpellier, qui pose problème. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, enfin, vous en parlerez, c'est pas le lieu d'en parler ici, c'est une émission, mais qui montre.
Si.
Mais, prenons tout simplement un cas particulier. Lorsqu'un député demande en Assemblée nationale à ce qu'un ministre intervienne pour que soient mis au pas les propos d'un écrivain qui a touché des royalties et qui a bénéficié très, très, très honorablement du fait de ses compétences du prix Goncourt intervienne, ça fait penser à Goebbels qui demandait à ce que les intellectuels soient mis au pas dans le cadre d'une politique. D'autant plus que, effectivement, comme le rappelait à juste titre Marine Diaye, puisque c'est de celle dont on parle, elle n'est pas grand fonctionnaire, donc elle n'a pas le droit de réserve. Et puis, il y a encore dans l'exercice de la démocratie un droit d'opinion, il me semble, qui est inscrit même dans le principe de la Constitution. Mais cela veut dire, d'une certaine manière, qu'il y a une double ignorance. Ignorance des élites, de la compréhension du système administratif qui les gère, c'est-à-dire le fonctionnaire le public et le privé. Et puis deuxièmement, ignorance de ce que c'est que le travail intellectuel, le travail artistique. Bon, il est clair que cette mise au pas, cette demande, et puis avec cette non-intervention, prouve assez que, comme disait le fameux écologiste, nous sommes effectivement dans une république de Fayot, c'est-à-dire que chacun est lié et soumis, comme dans une féodalité, par des devoirs liges, d'allégeance, et personne ne peut exercer son regard critique. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, Monsieur Sarkozy est tout seul, puisqu'il n'y a aucun de ses amis qui lui a dit « Écoute, c'est pas normal que ton fils, qui est un peu jeune, qui est pas forcément très bon scolairement, donc compétent, et qui n'a pas l'expérience de la vie, se présente. » Personne ne lui a dit C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ami, parce que l'ami, c'est celui qui prend le risque de dire la vérité à un point tel qu'il peut perdre ou la vie, ou même l'amitié de celui à qui il parle. Il y a donc, d'une certaine manière, une sorte de pourriture institutionnelle et politique dans la société française, mais grâce à la créativité de jeunes qui sont métissés, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique, qui viennent du monde, puisque nous sommes dans un monde médiatisé, ces gens-là inventent, créent, parlent, etc. Et ça pousse pas simplement en France, partout dans le monde. Et donc du coup, il y a une espèce de peur. Et je pense que les polémiques sur le voile, sur la burqa, qui ne concernent que 500 personnes, les polémiques sur aujourd'hui l'identité nationale, etc., sont montées de toutes pièces pour jouer sur l'affect de la peur et pour ne pas prendre en compte ce qui se passe, c'est-à-dire cette montée de la créativité qui passe aujourd'hui par le net, qui passe par les concerts, qui passe par le langage, par un certain rapport à la parole, un certain rapport institutionnel. Donc, je dirais de manière très ramassée que, d'une certaine façon, ces instrumentalisations, révèlent un déficit d'inventivité politique.
Salim, l'émission avec toi et le dialogue est agréable. On va se faire une petite pause musicale avec donc un titre de la Mano Negra, le titre Sidi Habibi, qui est donc un traditionnel du Maghreb, repris par donc les Mano Negra. Voilà, c'est Manu qui va nous le présenter. C'était Sidi Habibi, interprété par Mano Negra. Alors toujours, cette émission se poursuit avec Salim Mokaddem, philosophe. Voilà, donc on a le plaisir donc de recevoir. Et puis on va continuer donc sur cette identité nationale. D'abord, est-ce qu'on peut définir d'abord ce concept de l'identité nationale et puis faire le constat, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui?
Oui, et puis savoir ce que signifie ce syntagme identité et nationale, puisque avant tout l'identité est un principe logique, c'est-à-dire qu'on dit que A est égal à A, mais on ne dit jamais, par exemple, je suis identique à moi-même, je suis moi-même. L'identité est un concept logique, structural, qui est à mettre en rapport avec, qui met en rapport deux choses différentes. Hein. A est égal à B, ou je est égal à je, c'est déjà ce qu'on appelle une tautologie. Donc, c'est un principe relationnel logique. Ce n'est pas un principe qui désigne une réalité. Hein. Donc c'est déjà important de le comprendre, qu'on est identique à quelque chose ou à quelqu'un, etc. C'est pas sûr qu'on puisse être identique à quelqu'un d'ailleurs, la biologie nous le montre, la philosophie aussi, l'art aussi. Donc déjà, l'identité, que les choses soient claires, c'est un principe logique, relationnel, qui ne correspond à rien de réel. C'est un functeur logique. Hein.
La génétique le confirme.
Tout à fait. Voilà, donc c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que l'identité c'est un principe logique de reconnaissance, voilà. Alors quand on parle d'identité nationale, d'abord il faudrait savoir ce que c'est qu'aujourd'hui. Est-ce que le principe national détermine l'identité? Est-ce que le principe de la nation est au principe de l'appartenance identitaire? Ce sont des questions que les ethnologues ont résolues depuis longtemps, les anthropologues aussi, mais on va être très très fondamental, très basique. Ce qui détermine d'une certaine manière aujourd'hui l'identité, c'est tout simplement... la carte nationale d'identité. Donc il n'y a même pas à se poser de questions d'un point de vue juridico-administratif, et la carte nationale d'identité a pour fonction de déterminer d'une certaine manière qui est... Mais là on n'est plus dans l'identité. Hein, on est dans la citoyenneté, on est dans une appartenance politique, au sens d'une appartenance à une collectivité politique, de droits sociaux et politiques. Et puis, puisque on détermine cette carte nationale d'identité, eh bien, il faut savoir que ce qui est au principe de la constitution politique, c'est quand même les droits de l'homme. Donc la vraie question, c'est de savoir qui est-ce qu'on va exclure de l'humanité par le recouvrement qui est fait des droits civiques et politiques des droits humains, c'est-à-dire qu'est-ce qui précède quoi? Nous venons de le dire, ce qui précède, ce sont les droits de l'homme. Ce sont les droits de l'homme qui sont au fondement de la Constitution. Les droits de l'homme et du citoyen. Mais si les droits du citoyen viennent empêcher aux hommes d'avoir des droits, c'est ce qui se passe pour les sans-papiers, par exemple, cela veut dire qu'on déchoit l'humanité de ses droits essentiels à être, tout court. C'est exactement ce qui s'est passé en période nazie. On a d'abord déchu les juifs... et les autres, les communistes, les ziganes, etc., de leur citoyenneté. Parce qu'une fois qu'ils n'avaient plus de citoyenneté, c'est ce qui est au fondement de la question de la fondation de l'État d'Israël, par exemple, s'il n'y a plus de citoyenneté, qui va les protéger? S'il n'y a pas d'État pour les protéger? C'est une question de fond. Alors qui va protéger les sans-papiers? Parce qu'il n'y a pas d'État de sans-papiers. Hein. Dès lors que vous êtes déchu d'une nationalité, vous êtes déchu, d'une certaine manière, d'une protection par des États particuliers. Il faudrait faire une distinction ici qui est faite par un philosophe comme Agamben entre la vie nue hein, et la vie telle que nous la vivons dans les sociétés avec des droits. C'est-à-dire que nous sommes reconnus simplement citoyens dès lors que nous avons une identité de citoyenneté, qu'on confond souvent avec la nationalité, et cette identité de citoyenneté, qui est confondue avec la nationalité, n'est pas immédiatement identique aux droits de l'homme. On voit bien que tous les États, par exemple, ont des droits différents, etc. Mais ce qui est supra-étatique, enfin, même si ça fait l'objet de discussions, s'il y a des États qui ne reconnaissent pas encore ces conventions internationales, ces droits, ce sont les droits de l'homme. Hein. On va dire le droit du genre humain pour éviter la sexuation du droit. Donc les droits, d'une certaine manière, du genre humain, détermine d'une certaine façon une appartenance universelle, et l'identité nationale, c'est en fait un syntagme qui produit de l'exclusion vis-à-vis de ceux qui n'ont pas la nationalité requise pour la protection de ces droits humains. C'est un peu compliqué, mais je pense que c'est important d'insister sur ça. Donc, la problématique de l'identité nationale, le principe, a une fonction, c'est une fonction d'exclusion, de déterminer qui est vraiment citoyen, qui ne l'est pas, autrement dit, qui est pur, qui est impur, qui a des droits, qui n'a pas de droits. Donc c'est un principe, si vous voulez, de séparation, et pas un principe de reconnaissance et d'acception et d'inclusion.
Salim, pour rester dans le cadre de l'identité nationale, c'est vrai que tu as parlé donc de cas des sans-papiers, mais en fait, le projet de l'identité nationale ne vise pas que les sans-papiers.
Non, bien sûr.
Elle vise les citoyens français... qui, bon, il faut donc appeler un chat un chat, un loup un loup, hein. En fait, elle désigne...
ceux qui ont acquis la nationalité.
Voilà, oui. Donc les gens...
C'est pour ça que je parlais de l'euthanasie.
Qui sont issus de l'immigration. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une poursuite logique de ce choc de civilisation, hein? Comment
oui,
on
oui,
sait pas.
Tout, oui, tout à fait, oui, tout à fait, absolument. Non, non, mais bien sûr que... Alors ça, c'est le deuxième... Vous voyez, c'est une fusée à étage. Le problème de la fusée à étage, c'est qu'on on triture la définition de l'appartenance politique. Le deuxième étage, c'est qu'on joue sur des représentations idéologiques complètement fantasmées. C'est-à-dire l'islam serait un islam terroriste, serait un islam agressif, il n'y aurait pas d'islam laïque, par exemple, il y aurait, etc., les musulmans. Avec un grossissement, une grosse loupe, un gros zoom sur les quelques personnes qui portent la burqa, etc., en disant, ben voyez, on fait une erreur de raisonnement, c'est-à-dire qu'on prend la partie pour le tout. Hein. C'est un effet métonymique. C'est-à-dire un procédé qui a été analysé par Freud dans la constitution du rêve, c'est-à-dire qu'on déréalise totalement le rapport à la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on fantasme la réalité. Et donc du coup, bien évidemment, on présente quelque chose qui a été, d'une certaine façon, l'objet d'un enseignement historique, entre guillemets, tout à fait particulier, depuis les guerres coloniales et les conquêtes impériales, c'est-à-dire qu'on identifie un bon franc et... un sarrasin, par exemple, dans les manuels des années 50, hein, Charles Martel, Roncevaux, etc. Enfin, il y a un travail de révisionnisme historique, mais qui va très loin. On commence déjà, ça va. Il y a eu actuellement, par exemple, une pétition qui signe chez les professeurs d'histoire et les autres, parce que l'inspection pédagogique des professeurs d'histoire dans l'Académie parisienne a laissé passer sur un site très officiel l'idée que Louis XVI serait parti à Varennes pour protéger ses enfants de la Terreur, alors que la Terreur n'était même pas, au moment de la fuite à Varennes, n'était même pas encore produite historiquement. Donc il y a une espèce de révisionnisme où on commence à modifier d'une certaine manière les catégories de l'histoire, c'est-à-dire à créer du flou, et après. Deuxième moment, c'est de dire, bah, vous voyez, quand il n'y a plus de catégories pour penser, parce que c'est très important, la logique et les catégories pour penser, eh bien, on peut faire des amalgames. Et donc dire qu'il y a des populations à risque. Mais ça, ce sont des choses qu'on connaît très très bien. Hein, ça a été les fous à un moment donné, les femmes, etc. Donc, et ces populations à risque, en général, ce sont des populations qui sont porteuses, que je vous disais tout à l'heure, de créativité, d'inventivité. C'est-à-dire qui rentrent en concurrence avec les élites dominantes du marché, pour analyser ça en termes de sociologie de la domination, mais aussi surtout parce que il y a un déficit d'idées. Donc on va instrumentaliser les vieilles peurs, encore une fois, avec la théorie du bouc émissaire. Et ce révisionnisme historique, eh bien, il vise tout simplement à instituer des fausses mémoires. Hein. Je veux dire, quand on dit, par exemple, la France est chrétienne, ouais, mais quel christianisme? Le christianisme d'Orient? Ne jamais oublier que le christianisme est une religion qui vient d'Orient, tout de même. Hein. Un des plus grands pères de l'Église était algérien, que je sache, saint Augustin, Kabyle, etc. Bon, il y a, d'une certaine façon, Origène. Bon, le monothéisme, rappelons-le, est né au Moyen-Orient. C'est pas, il est, qu'on le veuille ou non, il est sémite, il est lié dans une région bien particulière, araméen, etc. Il a une origine géographique, historique. Et après, il a une universalisation du discours. Hein. On ne va pas rentrer dans les textes de théologie, mais le paulinisme a servi à ça, enfin, Origène, etc. Et du coup, c'est dire rapidement comme ça, la France a des origines chrétiennes, c'est d'abord un fantasme. C'est-à-dire que c'est avant tout une construction politique. De toute façon, quand on parle d'origine, pour parler d'identité, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait confusion entre un concept chronologique et un concept logique. Un principe logique, par définition, c'est un principe de discrimination relationnelle. C'est pas un principe ontologique qui vise à désigner des réalités substantielles. Donc du coup, ce concept d'identité nationale vise à figer des représentations, c'est-à-dire à empêcher de comprendre le mouvement de devenir, ce flux dialectique qui a fait que les civilisations ont dialogué entre elles, et vraiment, elles ont dialogué beaucoup plus qu'on ne le dit aujourd'hui dans le passé. Il suffit de voir l'importance, par exemple, de penseurs comme Ibn Rushd, Ibn
Gabirod, le transfert des savoirs.
Le transfert des savoirs. Et puis là, Alain Libera, enfin, il y a des gens qui ont écrit des choses très, très, très justes à ce propos. On voit bien que c'est l'ignorance, d'une certaine manière, qui joue sur la peur et les affects et qui produit de l'ignorance. C'est-à-dire que les institutions les plus officielles aujourd'hui, et je ne parle pas effectivement effectivement, vous avez raison de dire que les universitaires sont, il y a des gens très brillants, très compétents, etc. Mais c'est pas cela qu'on mobilise.
On les voit pas à la télé, toujours
les mêmes. C'est quand même aberrant que des gens qui vous parlent de l'islam, de l'Iran, etc., qui ne connaissent pas une phrase d'iranien, pas la vie, etc. C'est quand même aujourd'hui, en 2009, c'est aberrant. On a des docteurs qui sortent. Bon, on peut pas. Ça serait impensable, par exemple, aujourd'hui, qu'on fasse une thèse sur Platon sans connaître un peu de grec ancien. Bon, ben là, vous avez des gens qui, tous les matins, sur des radios nationales, vous pointent des grandes vérités sur le chiisme, sur la CIA, sur l'islam. Bref, ce sont des fabricateurs d'opinions. Ces fabricateurs d'opinions, en général, véhiculent de l'ignorance. Mais la particularité de l'ignorance, on le sait depuis très longtemps, c'est qu'elle s'ignore. Donc elle devient dogmatique. Donc elle prend la forme d'un savoir. Et donc produit du délire. Et c'est ce qu'on appelle une psychose, en général. C'est-à-dire une déréalisation du monde avec un fantasme, d'une certaine manière, de toute puissance et une exclusion du rapport à l'autre. Or, l'autre existe. Hein. L'autre existe, il existe même dans l'identité. On ne peut pas comprendre l'identique si on ne sait pas ce que c'est que la différence. Pour que je dise A est égal à A, il faut que je puisse savoir que A peut être différent de A. Autrement dit, l'identité suppose la différence. Et la différence suppose le rapport à l'altérité. Mais bon, là, un petit cours de logique permettrait à quelques politiciens mal dégrossi de l'intérieur, d'avoir un rapport sain, d'une certaine façon, à la pensée, au réel. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre que l'identité, elle a une fonction, si vous voulez, presque hygiéniste, mais dans le mauvais sens du terme, de dire il y a les vrais et il y a les faux, il y a les copies, etc. Et donc d'instituer effectivement un conflit civilisationnel qui n'a pas lieu d'être, parce que la civilisation, par définition, c'est le lieu de la mixité, de l'autre, de la polémique, etc. Alors qui est du dissensus, qui est de l'opposition, qui est de la différence, ça fait partie de la vie. La vie, par définition, c'est un mixte de même et d'autres qui produit d'une certaine manière de la singularité. Et la même-té, le discours de l'identité, on sait ce que ça a produit. Ça a produit le Troisième Reich, c'était « il nous faut des Aryens », c'est-à-dire des gens qui correspondent à notre concept. Et quand on demandait à Goebbels « c'est quoi, dans le fond, un Aryen et c'est quoi un Juif ?», il disait « c'est moi qui définis ce qui est Juif et c'est moi qui définis ce qui est non-Juif ». Je dis ça parce que Fritz Lang avait été sommé par les autorités de devenir le ministre de la communication. Il faut croire que les nazis avaient peut-être un peu plus de d'intelligence politique que certains ministres. Mais, et donc Fritz Lang avait dit « écoutez, moi je ne peux pas, ma femme est juif ». Et Goebbels lui a répondu « écoutez, monsieur Lang, c'est nous qui définissons qui est juif de qui ne l'est pas ». Vous voyez ? Donc ça c'est intéressant, parce que si on commence à réfléchir sur l'identité nationale, on va se demander si madame Sarkozy, Bruni et Tedeschi est vraiment française, si monsieur Sarkozy l'est aussi, Nadine Moreno est bon. Vous voyez,
Besson, d'origine libanaise.
On peut aller très loin, vous voyez, l'origine ça ne veut rien dire. Oui. Ce qui est intéressant, c'est le droit. Bon, et français qui est détenteur de la nationalité française, d'une carte nationale française, quel que soit le procédé, par intégration, par assimilation, etc. Après, la question, c'est pour ça que je parlais des sans-papiers ou des étrangers qui sont visés. L'identité nationale française, ce n'est donc pas un débat politique. C'est un débat qui, d'une certaine manière, donne déjà les réponses dans les termes de la question. L'identité, ce n'est pas national. Ça peut être culturel, et la culture et la nation, ça n'a rien à voir. La nation renvoie, ça vient du latin nascor, être né, donc le lieu de naissance. Et c'est pas parce qu'on est né, par exemple, en France, qu'on est détenteur de la culture française. Je connais beaucoup de gens qui sont italiens et qui n'ont jamais entendu parler de Dante Alighieri ou des Espagnols qui ne connaissent pas cinéaste espagnol ou je sais pas moi, Morente, par exemple. Bon, il y a donc cette idée qu'il n'y a pas une assimilation culturelle du lieu de naissance, donc de la nature, un héritage, un patrimoine civilisationnel. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ça ne se situe pas du côté de la génétique et ça ne se situe pas du côté de la géographie biologique.
Bah écoute, Salim, tu vas commencer à avoir une réputation. Alors, je vais faire la transition pour présenter le titre de Georges Brassens, « La mauvaise réputation ».
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur bout, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
C'était le grand Brassens, le poète chanteur de chez nous, là, Salim. Voilà, de chez nous. Voilà, alors on va maintenant passer au livre de Salim qui vont bientôt paraître. Alors le premier, c'est le Traité des solitudes. Alors de quoi s'agit-il, Salim ?
C'est tout simplement un recueil de réflexions, une espèce de petit traité métaphysique, si j'ose dire, à partir de constatations sur la misère existentielle ou les angoisses dont on parlait tout à l'heure, parce que quand les gens ont des difficultés à penser leur identité, le sens commun, des repérages, parce qu'il y a un effondrement un peu des grandes transcendances, des grands récits, etc., ils ont tendance à bricoler un peu, chacun de leur côté, des façons d'être quand ils le font, sinon à se perdre dans l'amnésie, soit de la consommation ou de la jouissance. Et donc c'était une sorte d'analyse de la vie désaffectée, de la manière dont dont on vit son individualisme ou sa solitude ou son état de solitaire est forcé dans la société d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y a une dispersion dans les sociétés qui sont disposées biopolitiquement, c'est-à-dire où tous les affects sont contrôlés, ceux de la maladie, de la peur, de l'angoisse, etc., où il y a des réponses expertes déjà prédéterminées, même si dans la réalité elles sont souvent décevantes au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, etc., de voir un peu comment dans les arts, dans la sexualité, dans le rapport à l'autre, se montaient aujourd'hui des nouvelles formes de rapports d'humanité, d'aucun dirait de déshumanisation. Je ne suis pas si pessimiste que cela, donc j'essaie d'analyser un petit peu comment, par exemple, dans les nouages entre les sexes, l'amour se recrée aujourd'hui au moment de l'émancipation et au moment de l'autonomisation, en tout cas dans les sociétés occidentales développées, de baisse des conflits entre les genres. J'analyse aussi le rôle des images. Est-ce que les images vont supplanter le discours de ces petits artefacts technologiques que sont les téléphones portables, les iPods, toute la technologie, tout ce que ça implique comme redisposition de l'imaginaire, redisposition des corps, redisposition des affects. Est-ce que ça bouleverse la structure de la logique ? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un principe de causalité ? Quel est le rapport au temps que nous instituons, etc. Enfin, c'est un peu tout cela que j'essaye de déterminer dans ce livre.
Voilà donc le traité des solitudes à paraître donc bientôt pour Salim Mokaddem. Alors le second, c'est l'exil. Donc c'est un livre narratif ou une fiction philosophique. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dedans ?
Ben, dedans, on peut tout, même la cuisine. c'est-à-dire que j'ai essayé de faire dans ce conte philosophique, dans cet essai narratif, essayer de traduire ce que c'est que la vie d'un individu. Bon, il y a des parts d'autobiographie, bien évidemment, mais il y a des parts d'hétérographie. À partir de cet exil intérieur qu'on vit tous. Julia Kristeva en a bien parlé, mais on est tous exilés de l'intérieur. Dès lors qu'on pense, on s'arrache à l'immédiateté, soit du cocon familial, soit du cocon de la terre dont on parlait tout à l'heure, ou de l'identité. Par exemple, je suis pas sûr que Brassens ait été reconnu plus à Sète qu'à Paris. Hein. Comme il faut quitter son chez-nous, son terroir, pour pouvoir savoir qu'on en a un. Hein. Donc il y a un détour à faire. Hein. C'est un peu comme Ulysse qui fait le tour de la Méditerranée après la guerre pour revenir.
Tu prêches un convaincu, là.
Il y a donc une nécessité d'exil dès lors qu'on pense. L'homme est un animal exilé. Il est exilé de la vérité, il est exilé de la divinité, il est exilé du jardin d'Éden, il est exilé du bonheur, il est exilé de la sagesse, il est exilé même dans le langage qu'on doit acquérir, etc. Bon, exilé des autres langues. Enfin, l'exil fait partie, c'est-à-dire ce sentiment d'inquiétante étrangèreté et de différenciation permanente qui fait que qui est lié à l'intériorisation et à la pensée. Dès qu'on pense, on s'arrache aux évidences. Donc la question, c'est de savoir si on peut y revenir après ces évidences. Je pense que oui, mais différemment. Hein, c'est un peu comme le retour d'Ulysse à Ithaque. On y revient différemment, on y revient peut-être ça, à la sagesse, hein, un itinéraire de l'immédiat à l'immédiat en passant par la médiation. On pourrait donner cette définition comme ça. Mais disons que j'ai essayé de montrer l'évolution d'un enfant en passant par l'adolescence, le stade adulte, la maturité, la vieillesse et la solitude finale, qui est le rapport à la mort car on meurt seul. Voilà, j'ai voulu décliner cela un peu et puis en montrant ces grandes étapes et en essayant d'être un peu poétiquement disposé vis-à-vis de ces états de la vie, les considérer tous très sérieusement et ne pas considérer qu'il y a des états qui sont plus importantes que d'autres. La petite enfance est aussi importante que l'adolescente, qui est aussi importante que la maturité, qui est aussi importante que, etc. Et donc développer ce qui est, mais c'est vrai que l'adolescence, la sexualité, la découverte du corps à l'adolescence est important, mais c'est aussi important dans la petite enfance, mais la petite enfance c'est peut-être plus le rapport aux adultes, etc. J'ai essayé de développer ça sous forme de tableau, un peu, pour faire un conte un peu sous forme filmique et symbolique, de manière à réfléchir sur ce que pourrait être le sens d'une vie accomplie, d'une vie qu'on reconnaît comme authentique ou vraie. Et en fait, c'est une manière aussi pour moi de dire adieu à quelque chose qui est toujours présent, mais qui est l'ingénuité de l'adhésion immédiate au monde comme étant constitué selon des normes préétablies. C'est une façon de sortir un peu des évidences aussi dont je parlais tout à l'heure. Donc exit, c'est ça que ça veut dire. Hein. La sortie des évidences pour rentrer dans la grande énigme de la vie et l'inventer de façon à ce qu'elle ne soit plus source d'angoisse ou source négative d'erreur, d'ignorance ou d'errance. Hein. L'exil, ce n'est pas l'errance, c'est tout au contraire le fait d'être partout chez soi.
Mais Salim, l'exil parfois, c'est un moyen de chercher quelque chose qu'on n'a pas, un monde meilleur. Mmh. Il y a un exil. L'exil peut être pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons... Ce qu'on oublie aussi, c'est pour des raisons sentimentales. Il y a souvent des gens qui quittent un lieu pour aller chercher donc le bonheur ailleurs.
Oui, oui. Alors je parle à un moment donné de la guerre, justement, comme ce qui est à l'origine de l'exil. Et comment s'est vécue la guerre par un enfant, par exemple ? Je pense à ce film Le Ruban Blanc de Michael Haneke qui est actuellement sur les écrans et on voit la violence qui est faite aux enfants. Peut-être étiologiquement, elle peut déterminer les guerres. Hein. Autrement dit, rien n'est indifférent sur cette terre et dans le fond, nous sommes tous des exilés encore une fois. Mais quand on l'oublie, justement, c'est le mythe de l'identité, ça vise à oublier ça. Hein. Je veux dire, ça vise à faire croire qu'il y a une assise, il y a un jardin protégé, qu'il y a une Europe, etc., qui n'est pas dans le monde, qui est une île, une certaine forme d'Atlantide. Quand on oublie, justement, la condition extrêmement fragile et, les déstructurations qui prolifèrent sur la planète, je crois qu'on s'oublie soi-même. Quand on oublie, justement, l'exilé, quand on n'a pas une pensée pour celui qui est sans droit, que celui qui est en train de chalouper sur les mers au risque de sa vie et de sa mort, quand on n'a pas une pensée pour celui qui est dans une prison quelque part, dans un état où celui qui n'a pas... Je pense qu'on oublie sa propre humanité. Ce n'est pas du tout du caritatisme, hein, ce n'est pas du tout du piétisme, ce n'est pas du tout de la moraline dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler de tout simplement qu'il y a un kaléidoscope. Et je ne peux me comprendre que par rapport à l'autre. Et quand l'autre arrive, il va m'apporter, il va me donner l'identité de moi-même. Il a un rôle de miroir, un rôle réflexif. L'altérité me renvoie à une identité à laquelle je ne peux pas avoir accès si je n'ai pas l'autre pour me renvoyer qui je suis. Et autrement dit, l'autre, c'est le témoin au sens grec du terme. En grec, ça se dit martyr. Martyr veut dire témoigner. C'est le témoin de ma propre légitimité éthique. Donc c'est le témoin de ma propre vie. Donc, d'une certaine façon, c'est comme ça qu'on peut fonder, par exemple, le droit d'hospitalité. On disait que le droit d'hospitalité, c'est un droit ontologique à la reconnaissance de soi par l'autre. Donc, c'est un droit presque politique qui devrait être institué au principe même de la constitution des sociétés politiques. Mais aussi, c'est le fait que, d'une certaine manière, on se doute bien que quand quelqu'un s'arrache à sa langue, à sa terre, à son terrain, il ne le fait pas par une volonté de puissance. C'est parce qu'il est soumis à quelque chose qui le dépasse, qui peut être une guerre, qui peut être une faillite économique, qui peut être une tourmente naturelle, qui peut être... Il y a des causes multiples qui peuvent être naturelles, qui peuvent être... Bon, les gens qui ont connu les inondations en Louisiane, bien évidemment, ont vécu quelque chose qui était cosmique, si j'ose dire, un déracinement cosmique, mais ça peut être politique, ça peut être la folie. Donc, d'une certaine façon, ça peut tomber dessus comme ça, on n'est pas responsable, hein, je veux dire, faut pas imaginer. Ça, c'est une vision paranoïaque, la vision de considérer les étrangers qui viennent en France, par exemple, comme des hordes de barbares qui viennent se jeter sur le gâteau du trésor français identitaire, par exemple. C'est une vision paranoïaque. Ils vont d'abord, c'est pour vivre. Quand on discute avec ces gens-là, c'est d'abord pour avoir la paix, la sécurité, élever leurs enfants et avoir une vie digne d'un être humain qui a des droits qui dépassent, encore une fois, le cadre des territorialités, des nationalités et des aléas de la politique dans l'histoire.
Alors le troisième livre, c'est intitulé « Intervention hein, », un ensemble de recueils et d'articles. Alors qu'est-ce qui regroupe donc ce recueil ?
Ce sont des conférences que j'ai faites en fait, je me suis aperçu qu'elles tournaient à peu près autour des conférences, par exemple à l'intention de médecins, de soignants, d'éducateurs, d'enseignants, etc., qui tournaient autour donc d'une réflexion sur ce que c'est qu'aujourd'hui le social. Donc c'est une philosophie du fait social que j'ai essayé de faire, très modestement, en remarquant d'une certaine manière, il y a une demande de sens commun, il y a une demande de compréhension, il y a une demande de valeur. Et j'interrogeais donc cette demande de sens, par exemple sur l'appel des appels, pour prendre cet exemple-là, parce que c'est le dernier, celui qui me vient en tête, là, réfléchir pourquoi il y avait besoin de faire un appel s'il y avait déjà un appel. Que veut dire cette redondance ou ce génitif dans l'appel des appels? Pourquoi y a-t-il besoin de formaliser cet appel? Pourquoi y a-t-il besoin d'unifier dans le discours des pratiques qui sont divergentes, pour le coup, mais qui se reconnaissent? Donc j'ai essayé d'interroger un peu la grammaire sous-jacente à tous ces vocables qui étaient isolés.
D'où divergence.
Oui, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça intervention, parce que c'est à la fois très situé, très singulier, hein, dans le champ de la pratique médicale, dans le champ de l'éducation, dans le champ du soin, etc. Et en même temps, dans le champ de la conscience sociale, et en même temps, je pense qu'il y a une nécessité pour la philosophie de dire ce qui est dans les limites, dans les limites de l'acceptable ou non, dans les institutions, dans les savoirs, dans les pratiques. Et ça suppose d'une certaine manière qu'on y aille un peu de sa personne. Et malheureusement, la lâcheté est une vertu négative bien partagée aujourd'hui, pour des raisons que j'ignore, mais qui sont certainement liées à des faits d'imagination. On pense certainement qu'il en est mieux ainsi et que les choses peuvent être pires si on agit ou si on bouge. Moi, je fais le pari de l'intelligence collective et du collectif.
Voilà, donc apparaître bientôt, j'ai dit, trois livres de Salim Mokaddem, « Le traité des solitudes, exil et intervention ». Alors, on va se faire une petite pause musicale. Et après, on va parler donc du programme des États généraux donc de la citoyenneté qui se déroule en ce moment donc à la Paillade, à la Mosson. Alors voilà donc, on va demander à notre cher Manu hein, de nous passer Mustapha Bakpouf. Divergence FM 93.9, ça n'a pas changé donc à la réalisation technique de cette modeste émission, le grand Manuel Plaza, Manu, et puis avec nous donc un invité, hein, Salim Mokadem. Salim, quel bonheur de t'avoir, voilà, c'est, le dialogue avec toi est sympathique. Et c'est vrai, il n'y a que Divergence où on a le temps de recevoir les gens, parce que Divergence FM, c'est donner donc le temps au temps. Voilà. Alors, on va parler donc du programme donc des États généraux de la citoyenneté qui se déroule, qui ont commencé hier donc à la Paillade, à la Mosson, hein, qui se dérouleront aujourd'hui et demain le 15 novembre. Alors, les États donc généraux de la citoyenneté, un mouvement, l'association s'est créée donc l'année dernière. Et puis, voilà, le but de ces j'allais dire, de ces états généraux de la citoyenneté, donc dans les quartiers populaires. C'est donc provoqué donc un sursaut et une sensibilisation et un éveil de conscience de citoyenneté donc dans les banlieues. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui travaillent, qui participent économiquement. Hein. Il n'y a pas que des casseurs de voitures. Hein. Voilà, donc il y a des gens qui vivent, qui se lèvent tôt aussi, hein, à 5 heures du matin. Hein. Ils sont dans les chantiers. Et on a quand même des gens qui ont des diplômes. Et le problème, c'est la discrimination maintenant de ces jeunes diplômés. Hein. Alors hier, Divergence FM était donc... à l'ouverture de ces états généraux donc de la citoyenneté, alors
discrimination vis-à-vis des jeunes diplômés, mais aussi des vieux diplômés. Je veux dire, cette discrimination est totale. Elle n'est pas simplement anti-jeune. Il y a une discrimination aujourd'hui qui porte, je pourrais en donner des cas bien précis. Il y a des institutions qui le font très bien, dont c'est le métier. Il y a des sociologues dont tu vas parler un instant certainement. Mais il faut rappeler que cette discrimination, elle porte aussi sur les populations plus âgées, les populations en retraite, sur les mères de famille. C'est pas uniquement sur les jeunes. C'est pas simplement une, comment dire, un conflit générationnel. Il y a quelque chose de plus profond. Je veux dire, le racisme à la française, j'en parle souvent avec des chercheurs espagnols ou, et autres qui ont travaillé en Belgique ou en Angleterre ou dans d'autres pays. Le racisme à la française est tout à fait particulier. Enfin, il faut le dire sans acrimonie ni même sans passion triste, mais il y a quand même quelque chose qui résiste à, disons, la reconnaissance des compétences, des qualités et des qualités de citoyenneté à cette population. C'est quand même particulier, très particulier. Je pourrais en donner 10 000 exemples, hein, bien évidemment.
Je vais préciser, Salim, les discriminations envers les jeunes diplômés issus de l'immigration, hein, parce que souvent, on sait quand même qu'il y a donc des problèmes, donc j'allais dire d'éducation nationale. Donc, il y a des collèges sinistrés. S'ils sont sinistrés, parce qu'ils sont dans des quartiers sinistrés. Le problème, c'est des jeunes diplômés issus de l'immigration qui ont tout fait, qui ont leur diplôme.
Alors moi, je ferai très attention
ont des difficultés, oui.
Des quartiers sinistrés. Ce ne sont pas des quartiers sinistrés. C'est des quartiers qui ont été sinistrés. On va faire un néologisme. On a sinistré ces quartiers. C'est-à-dire qu'on a tout fait. On a accumulé les conditions pour qu'il y ait ce sinistre. On a accumulé les populations, les difficultés économiques, les difficultés sociales, les difficultés de transport. Et tout d'un coup, on se réveille un matin. Vous voyez, ce quartier est sinistré. C'est comme une plante qu'on n'arroserait pas ou qu'on ne mettrait pas dans le bon terreau. Puis on se dit, vous voyez, ces plantes-là, ça pousse pas, c'est de la mauvaise graine, etc. Bon, c'est sauvageon. Faut quand même être... Là, pour le coup, il y a un sursaut, il y a une colère de la raison à avoir. Il faut quand même pas exagérer. Ce pays ne reconnaît absolument pas ni la diversité culturelle. Faut voir même à Ramayadé, ou ce que Azouz Begag a vécu quand il était en face de Monsieur Hortefeux, qui est auvergnat, comme chacun sait, comme aussi il tient des propos éhontés sans qu'il y ait aucune mesure, ne serait-ce que éthique, de correction élémentaire qui soit faite par sa...
Il y a une sorte d'immunité qui s'installe.
Il y a de la haine, hein, tout simplement. Il y a de la haine, et puis quand vous couplez... Alors la haine, c'est souvent la forme la plus manifeste de la bêtise. Mais quand vous couplez la haine, d'une certaine manière, à l'impunité, vous avez quelque chose qui peut être très dangereux. Hein, mais vraiment, il y a quelque chose d'intolérable là en ce moment. Ça va jusque la poursuite des propos de Madame Diaye, jusque l'indexation des populations qu'on désigne comme des populations dangereuses. Enfin, il y a un vrai racisme dans ce pays. Enfin, il faut quand même le dire. Hein, et l'utilisation du discours de Le Pen par Sarkozy et l'UMP, voire même le Parti Socialiste, hein, je veux dire, là, on est en dehors de la politique partisane, fait que, d'une certaine façon, ça n'arrange pas les choses. Hein. Il y a eu quand même des tentatives de révision historique, il y a eu des tentatives de patrimonialisation de la mémoire, de modification. On est dans un pays qui n'a pas réglé son passé vichysois et son passé colonial. Donc, du coup, c'est un pays qui, d'une certaine manière, vise à se réinventer de manière fantasmatique. D'une certaine façon, son rapport à l'autre. Alors donc il lui faut... c'est pour ça que je veux dire, les quartiers sinistrés ne sont pas des quartiers sinistrés, c'est des quartiers qu'on a sinistrés. Hein. Ça, c'est très important de le préciser. Il y a des causes sociologiques, historiques, qui permettent de comprendre le paupérisme et la violence qui existent dans certains quartiers. C'est très important. D'autant plus qu'il y a des mesures. On a supprimé la police de proximité, c'est-à-dire le dialogue entre la loi et ceux qui font la loi.
Salim, il y a le vrai problème donc, des quartiers difficiles, c'est la ghettoisation.
C'est ça.
Donc, à partir, parce que quand on compare le quartier de la Payade, donc hier, dans les États généraux donc, de la citoyenneté, il y a une ancienne habitante donc, de la Payade. Et elle était à la Payade, ça fait une vingtaine d'années, et elle a fait un constat amer. Elle a dit que ça fait 20 ans, dans le même immeuble, il y avait des gens d'origine arabe, espagnole, portugais, des franco-français. C'était vraiment, il y a les quartiers populaires, il y avait une mixité. Alors que là, maintenant, les quartiers se ghettoisent. Dans la région parisienne, c'est pire. Il y a des quartiers où il y a des Tunisiens, d'autres quartiers où il n'y a que des Marocains. C'est ça le problème. Et à partir du moment on ghettoise un quartier parce qu'on apprend de l'autre qui est différent. À partir du moment où on met des gens ensemble qui se ressemblent plus ou moins entre eux, c'est vrai que le constat donc, est amer. Alors, je vais juste, Salim, rappeler le programme donc, des États généraux de la citoyenneté.
Mais je crois qu'il faudrait, si je puis me permettre de suggérer à Divergence, il faudrait faire une émission sur le racisme de manière non polémique, c'est-à-dire expliquer pourquoi, par exemple, j'ai certains collègues qui mettent leurs enfants, qui sont pas du tout racistes, dans des établissements privés, alors il n'y a plus la carte scolaire, pour éviter d'être en rapport avec certaines populations. Et quand on discute avec eux, c'est très intéressant de le savoir. Alors on peut pas simplement dire ils sont racistes, ou etc. Il faudrait analyser les choses de manière plus fine. Parce que je pense que le racisme auquel nous assistons aujourd'hui est plus complexe que celui des années 60 ou 70, qui était lié à la perte de l'empire colonial, etc. Enfin,
Salim, ta proposition n'est pas tombée donc, dans l'oreille donc, des sourds. On prendra rendez-vous et on fera donc l'émission avec d'autres intervenants. Alors, je rappelle donc les États généraux de la citoyenneté donc, à la Mosson en ce moment. L'ouverture, c'était hier, le vendredi 13, au centre de la Margelle. C'était donc à 20h, une conférence grand public avec la présence d'Abdelaziz Chambi, qui est donc une figure de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Alors ça rappelle quelques souvenirs donc à certaines personnes. Il y avait aussi Vincent Geisser, qui est donc chercheur, et puis qui est spécialiste sur les questions des discriminations et sur l'implication politique des minorités visibles dans la société, quoique il supporte pas ce terme de minorité visible. Voilà, il est plutôt spécialisé donc dans la discrimination dans le monde politique. Et puis il y avait un invité de marque hier, c'était Malcolm Chabaz, qui est donc le petit-fils de Malcolm X. Voilà, c'était vraiment une très très belle manifestation. Alors, aujourd'hui, le samedi 14, ces états généraux se poursuivent, avec à 14h toujours centre de la Margelle, projection débat sur un film « La rénovation des quartiers populaires ». Et puis à 16h, vous avez donc une projection débat. Alors comment s'en sortir ensemble dans les quartiers populaires en pleine crise économique et sociale? Alors vous savez que la crise économique ne touche pas que le monde de la bourse, elle touche plutôt les pauvres. Voilà. À 18h, vous avez une séance plénière avec la population des quartiers. Donc Vincent Geisser, Malcolm Chabaz et les rapporteurs donc des ateliers feront donc participeront. Et en plus, en présence d'Abdelaziz Chambi, répondront aux questions des habitants. Alors demain, le 15 novembre, un rassemblement à 10h devant la maison. Pour tous, c'est un rassemblement donc citoyen et symbolique, et ça va se terminer donc à 16h. Donc ça sera clôture des états généraux de la citoyenneté, et à 13h, il y a un déjeuner citoyen dans un café qui s'appelle le café Berkane, un des cafés donc célèbres de la Payade. Les états généraux de la citoyenneté, qui se déroule dans le centre de la Margelle. On sait que le centre de la Margelle, c'est un centre œcuménique de l'Église protestante qui donne gratuitement donc ce centre pour toutes les associations. Et c'est vrai, quand on voit qu'il y a des maisons pour tous, par exemple, des salles à la maison pour tous, et les organisateurs disent qu'ils n'ont pas pu avoir donc les salles de la mairie, bon, qui appartiennent quand même aux citoyens. Qu'est-ce que tu penses de...
Bah, je pense qu'il y a des maisons pour tous et pour personne. pour plagier Nietzsche, parlant de Zarathoustra, de son livre, ainsi par les Zarathoustra, disant que c'était un livre écrit pour tous et pour personne. Enfin bon, de manière plus sérieuse, difficile pour moi de me prononcer sur cette journée auquel je n'ai pas assisté, je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas, dire tout simplement, d'un point de vue purement objectif, c'est que je vois de plus en plus une perte de confiance dans l'ascenseur social et dans le processus d'intégration. Je n'aime pas ce mot-là, ça suppose la désintégration, mais disons que je n'aime pas le mot assimilé non plus. Je veux dire, il y a un problème, voilà, c'est pour ça qu'il faut nommer ce problème, et les mots sont très importants. Je pense qu'il est lié au fait qu'il y a eu une histoire coloniale sordide, qui ne s'est jamais dit, qui n'a jamais été prononcée. Enfin, je veux dire, mais à tout point de vue, hein, je veux dire, c'est pas, quand je dis colonial, c'est pas, faut pas entendre ça du point de vue simplement de l'histoire de la colonisation de l'Afrique, etc. C'est que même sur le territoire français, je veux dire, il y a eu un très beau téléfilm pour le 11 novembre qui est passé, où on a vu comment les soldats, les instituteurs ont été traités pendant la guerre 14-18. Enfin, je veux dire, vraiment fusillés. Il y a une arrogance. Il y a une histoire quand même qui est quand même tragique. Et cette histoire tragique, pour des raisons de consensus, le général de Gaulle a inventé un mythe de la résistance, etc. Bon, ça m'étonne pas que ce soit les protestants, hein, qui étaient eux aussi qui ont été condamnés à l'exil et qui ont été aussi obligés de se cacher, etc., qui eux aussi ont été des dénis de droit, ça ne m'étonne pas que ce soit eux qui sont sensibles à ce type de problème. Parce qu'il y a une ouverture, une tolérance, qu'il n'y a peut-être pas dans certaines autres religions qui ont inventé un mythe. Pas faire de... Faut froisser personne, c'est pas le but, mais il faudrait se poser de savoir ce que c'est que la religion catholique romaine papiste. Hein, je veux dire, se poser cette question profonde de ce que c'est que ce qui s'est passé au moment des conflits entre l'Empire et la papauté, le déplacement des papes en Avignon, leur retour à Rome, etc. Toute cette politique du sacré, toute cette politique de la religion qui a donné lieu à une théologie, à des institutions, hein, et qui a donné lieu aussi à l'Inquisition, qui est une première répétition d'une excommunication au niveau national, nationalitaire, puis ce qu'a été, d'une certaine manière, le code de l'indigénat. Deuxième répétition, cette fois-ci dans un cadre administratif et juridique, de ce qui sera les déportations de population, jusqu'à culminer dans cette espèce d'auto-consécration de la bêtise sacrificielle qu'a été le national-socialisme. Je pense que tout ça, ça laisse des traces. C'est-à-dire que l'hitlérisme, comme philosophie, entre guillemets, pour parler comme Lévinas, a laissé des traces. Et nous sommes aujourd'hui dans une époque où la guerre, où les rapports militaires déterminent plus les rapports sociaux que les rapports de concorde et de partage de valeurs communes. Hein. Il ne faut pas oublier aussi que la guerre en Europe, en Bosnie, ça a aussi créé des effets. Encore une fois, il faudrait prendre des champs et voir aussi ce que c'est que le statut de l'enfance, comment sont traités les enfants aussi. Des populations immigrées, comment elles sont accueillies, comment recueillies, entendues, parlées, etc. Et c'est quand même, moi je trouve ça assez étonnant que la langue arabe ne soit pas enseignée dans certains collèges, dans certains lycées. Je trouve ça, alors que le chinois l'est à juste titre. Mais quand je dis l'arabe, c'est l'hébreu, oui, c'est le chinois.
Elle est enseignée que dans des collèges
mais bien sûr,
il y a donc une population. Mais c'est vrai, elle n'est pas considérée. Il y a
un
amalgame.
Elle est dévalorisée en termes de langue de culture.
Voilà, entre la culture et la religion.
Il est plus noble de parler le sanskrit que l'arabe. Non, pour le grand public. Hein. Oui. Je ne parle pas pour les élites savantes, etc. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la méconnaissance de ce que c'est véritablement que la culture. Alors moi, je dirais une chose. Il faut faire un appel à l'érudition, redonner les droits au savoir, mais pas au savoir médiatique, hein, pas les savoirs des matinées de France Culture ou de France Inter, hein, pour le dire rapidement. Hein. Pas les savoirs galvaudés, hein, c'est pas les journées du mois de juillet et d'août à Montpellier, etc. Mais il y a ça, et puis remodifier quand même l'espace de compréhension et d'intercompréhension des cultures et de la culture entre elles.
Merci à Manu donc, pour cette belle réalisation technique, et puis merci d'avoir accepté notre invitation, Salim. Le rendez-vous sera pris pour d'autres émissions. Hein. N'oubliez pas donc les états généraux de la citoyenneté donc aujourd'hui au centre de la Margelle et demain. Merci et à la semaine prochaine.
Merci.